Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, sœurs auditrices et sœurs auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous commençons notre programme avec le journal, suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. La cybersécurité est une problématique qui fait partie des priorités de l'Indonésie. La coopération entre l'Indonésie et la Malaisie dans le domaine de l'économie. Manado produit 1,3 trillion rupiah du secteur touristique. Le président Jokowi a reçu la reine des Pays-Bas. L'Indonésie encourage la coopération de tourisme culturel de l'Asie. Et enfin, l'ambassadeur a dit que les meubles de l'Indonésie sont célébrés en Ouzbékistan. Voici le journal complet. L'ambassade de France en Indonésie à travers Business France, mardi le 30 août 2016, a fait un séminaire franco-indonésien concernant la sécurité des cyberespaces en Indonésie. Ce séminaire, intitulé Indonesian French Cyber Security Seminar, parlait principalement du développement et de l'importance de la sécurité des cyberespaces du temps présent. L'augmentation du besoin d'utilisation de l'Internet à tous les secteurs publics et privés aujourd'hui devient une problématique qui provoque les cyberattaques qui pourraient déranger la sécurité du pays. Donc, la France sensibilise tout le monde, le gouvernement, les secteurs privés et même les individuels pour prendre la conscience sur l'importance de la cybersécurité. Le chargé de développement de technologie et de services du Business French, Gaya Guiru Mejenoun, a dit que le développement de cybersécurité était une priorité aussi importante que la construction d'infrastructures en Indonésie.
Quelles sont les priorités de l'Indonésie? Il y a des priorités en termes d'infrastructures. Les aéroports, les trains, le portuaire, le maritime, ça fait partie des priorités. Mais l'Indonésie, c'est aussi un pays qui a compris que le online, que les startups, que le e-commerce, que le mobile banking sont aussi des secteurs sur lesquels il faut miser. Donc oui, la cybersécurité, c'est une problématique qui fait partie des priorités, car aujourd'hui, sans sécurité des données, sans sécurité de l'information, on ne peut rien faire. Si on ne sait pas sécuriser son information, si on ne sait pas sécuriser ses données, ça peut poser des problèmes.
Gaya a également dit que la cybersécurité en Indonésie devait aussi être appliquée sur les domaines policiers et militaires, car aujourd'hui, l'acte de criminel et même le terrorisme peut être fait et commencé dans le cyberespace. Donc, selon lui, il faut prendre la conscience sur la nécessité absolue de cybersécurité et le gouvernement doit socialiser l'importance de celui-là aux citoyens même depuis l'enfance. Les gouvernements de l'Indonésie et la Malaisie ont convenu de coopérer dans le domaine économique par l'intermédiaire de la Fondation du Conseil des pays producteurs de l'huile de palme, ou CPOCP, à la réunion bilatérale qui a eu lieu en Malaisie mardi le 30 août. Le ministre de coordination des affaires maritimes, Luhut Binsar Panjaitan, a dit à RRI mercredi que certains points liés à CPOPC ont été convenus.
Kita sudah merampungkan mengenai pengurusnya,
Nous avons terminé sur la gestion, puis nous organisons notre stratégie et faire le financement de 5 millions de chaque personne pour le bureau opérationnel. En décembre, il y aura le forum d'affaires à Jakarta et toutes les questions qui ont été abordées seront achevées à Jakarta à partir de maintenant jusqu'en décembre. Pendant ce temps, le ministre malaisien de la Compagnie, l'agriculture et des produits de base, Datuk Seri Masue Keong, a dit à la presse que dans l'avenir avec l'Indonésie, son côté promouvera l'existence de la fondation du Conseil des pays producteurs de l'huile de palme aux autres pays et de supprimer les stigmates négatifs sur l'utilisation de l'huile de palme. Son côté espère également que les autres pays producteurs de l'huile de palme, comme la Thaïlande, le Nigeria, la Colombie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, se rejoignent et soutiennent l'existence de ce conseil. L'exemption de visa par l'Indonésie peut augmenter les revenus dans le secteur du tourisme. Manado est la nouvelle destination touristique en Indonésie. Le ministre du Tourisme de l'Indonésie, Arif Yahya, expliquait que l'Indonésie était en train de promouvoir Manado comme la nouvelle destination et a produit 1,3 trillion rupiah de l'arrivée de 16 000 touristes en provenance de Chine pendant les deux derniers mois.
Manado itu dalam dua bulan ini, Juni dan Juli, sudah terbang 16 ribu.
Pendant le mois de juin et juillet, 16 000 touristes chinois ont visité Manado. Si nous pouvons le maintenir, en moyenne, 8 000 jusqu'à 100 000 touristes de la Chine visiteront Manado, soit environ 100 millions de dollars américains. Selon le ministre Arif Yahya, le ministère indonésien du tourisme continue à vendre le tourisme de Bali pour attirer les touristes étrangers, mais il faut être combiné avec Manado. Ceci est prouvé par l'augmentation du nombre d'arrivées de touristes étrangers à Manado. Le président Joko Widodo a reçu la visite de la reine néerlandaise, reine Maxima Zoregita Tiruti, au palais présidentiel ce jeudi. La reine Maxima vient comme conseillère spéciale du secrétaire général des Nations Unies sur le financement inclusif pour le développement. À cette réunion, ils ont discuté des programmes économiques inclusifs qui sont en train d'effectuer activement par le gouvernement indonésien. Auparavant, la reine Maxima a rencontré également la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, à Gedung Pancasila du ministère des Affaires étrangères à Jakarta, mardi le 30 août. Dans sa rencontre avec Madame Retno Marsudi, la reine Maxima a salué les progrès du programme de financement inclusif en Indonésie. La reine néerlandaise était en Indonésie pendant 3 jours. Le gouvernement indonésien encourage le renforcement des réseaux de coopération de tourisme culturel entre les pays membres du dialogue de coopération asiatique de TIA, comme indiqué dans un communiqué de presse de l'ambassade d'Indonésie à Téhéran mercredi. Cela a été déclaré par l'ambassadeur d'Indonésie en Iran, Octavina Alemoudine, à la première réunion des ministres du tourisme des États membres du dialogue de coopération asiatique de TIA, qui a lieu du 29 au 30 août 2016 à Tabriz, en Iran. La réunion a été assistée par le secrétaire général de TIA, Bundit Lim Schoon, de la Thaïlande, certains ministres du tourisme, sous-ministres, les ambassadeurs à partir de 15 pays membres du DTA. Dans la discussion de l'ordre du jour de chaque pays membre, la délégation indonésienne dirigée par Alimuddin a souligné l'importance d'établir des réseaux de coopération du tourisme culturel des pays membres du DTA, parce que de nombreux sites culturels interdépendants dans les pays asiatiques. Il soutient la normalisation de la qualité et le service donné par les hommes d'affaires touristiques qui peut être fait via la coopération pour le développement des capacités et des investissements étrangers, tout en respectant la sagesse locale et l'existence des communautés locales. L'Indonésie souligne également la nécessité de prêter attention aux aspects de sécurité et de l'environnement sain dans les destinations touristiques, a déclaré Alimuddin. Les meubles d'Indonésie sont inclus dans les produits qui sont célèbres et populaires en Ouzbékistan parce qu'ils ont la qualité et la conception intéressante. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur de la République d'Ouzbékistan en Indonésie, Savkat Jamolov, dans un entretien avec l'agence de nouvelles Antara à l'ambassade de la République d'Ouzbékistan à Jakarta mardi, dans le cadre du 25e anniversaire de l'indépendance de la République d'Ouzbékistan le 1er septembre 2016. L'ambassadeur Jamolov, accompagné du troisième secrétaire Oybek Eskobilov, a affirmé que beaucoup de meubles fabriqués à partir de Jepara, Central Java, étaient commercialisés à l'Ouzbékistan, mais les vendeurs utilisent d'autres pays comme producteurs de meubles. La valeur des échanges commerciaux entre les deux pays en 2015 a enregistré 12,8 millions de dollars américains. Il espère que le commerce et l'investissement des deux pays augmenteraient à l'avenir. Et il a invité les hommes d'affaires indonésiens à faire des affaires dans divers secteurs dans le pays, avec une population de 32 millions d'habitants, le plus élevé parmi les pays d'Asie centrale. Serge Ritter, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Serge Zemblanten, bonsoir. Voici donc le commentaire ayant pour le titre La réalisation de l'amnistie fiscale. Depuis qu'il a été introduit en juillet 2016, un programme de l'amnistie fiscale a commencé à réussir. Cela a été marqué par un engagement d'une centaine d'entrepreneurs nationaux à déclarer et à rapatrier des fonds d'une valeur de 1 trillion roupias avec une rançon d'environ 60 trillions roupias. Selon la direction des impôts du ministère des Finances, la rançon à travers le programme d'amnistie fiscale a atteint 3,12 trillions roupias jusqu'à la fin d'août. Il a rapporté que près de 22 200 contribuables ont suivi le programme d'amnistie fiscale. Les actifs totaux qui sont rapportés sont de 149 trillions roupias. Ainsi, la rançon est d'environ 3,12 trillions roupias, soit environ 1,9% de l'objectif de recette de l'amnistie fiscale du programme de 165 trillions roupias dans le budget de l'État révisé 2016. L'afflux de fonds d'environ 1 trillion roupias avec l'amnistie fiscale aura certainement un impact meilleur pour conduire l'économie nationale et augmenter l'assiette fiscale. Les fonds qui seront investis dans le pays permettront de créer des emplois et encourager le secteur HIL. Le président d'Apindo, Association des employeurs de l'Indonésie, Sukamdhani Haryadi, a dit que l'amnistie fiscale donnerait la sérénité aux entrepreneurs. En outre, l'amnistie fiscale permettra de créer un climat de concurrence d'affaires plus équitable entre les employeurs. Selon lui, Apindo continuera à soutenir le programme d'amnistie fiscale et invitera les entrepreneurs à participer à ce programme. Les gens indonésiens doivent comprendre l'importance des taxes pour le développement, y compris pour atteindre les objectifs du gouvernement pour construire les infrastructures rapidement et massivement hors de Java, ainsi que la diminution du nombre des pauvres et des inégalités sociales. Le but du gouvernement à travers le programme d'amnistie fiscale est de créer un esprit de solidarité pour financer le programme de développement. La participation des grands contribuables dans le programme d'amnistie fiscale nécessite un processus. Parce que tous les bureaux de la Direction générale des impôts dans le pays doivent travailler dur pour se concentrer sur la socialisation aux grands contribuables et livrer un appel à tirer profit du programme d'amnistie fiscale. Les grands contribuables devraient également être inventoriés et contrôlés régulièrement afin d'assurer leur participation à ce programme. En outre, la direction des impôts doit se préparer à fournir de nombreux centres de services pour simplifier et accélérer le processus administratif de l'amnistie fiscale. Bien que le taux de participation du programme d'amnistie fiscale augmente fortement à la fin septembre 2016, mais le gouvernement devait encore travailler dur pour socialiser ce programme. La conséquence en tant que citoyen est de payer des taxes pour financer des activités dans le pays d'Indonésie. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Voici l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec le tremblement de terre au Japon le 1er septembre 1923. La région de Tokyo, Yokohama, zone surpeuplée, est secouée par un violent tremblement de terre suivi d'un incendie et d'un raz de marée. Près des trois quarts de Tokyo sont détruits et plus de 100 000 personnes périssent dans la catastrophe. L'archipel se trouve dans une zone d'activité volcanique intense car le fond du Pacifique occidental glisse régulièrement sous la plaque continentale qui porte le Japon. Notre information est sur la première conférence des non-alignés à Belgrade en Yougoslavie le 1er septembre 1961. La conférence afro-asiatique tenue du 18 au 24 avril 1955 à Bandung, assistée par les 29 chefs d'État et de gouvernement de l'Asie et de l'Afrique, est un processus initial de création de mouvements des non-alignés. Le mouvement des pays non-alignés a eu lieu le premier sommet à Belgrade en Yougoslavie du 1er au 6 septembre 1961. 25 pays non-alignés se réunissent à Belgrade suite à l'invitation de Tito, président de Yougoslavie. C'est là le premier congrès du mouvement des non-alignés luttant contre toute forme de colonialisme et permettant de faire bloc face aux deux puissances de la guerre froide, les États-Unis et l'URSS. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'Université agricole de Bogor, IPB, a été fondée. L'Institut agricole de Bogor, IPB, est une université agricole d'État basée dans la ville de Bogor, l'ouest de Java, en Indonésie. L'Institut a commencé comme une école agricole ou Landbouwers School, formée par le régime colonial hollandais au début du XXe siècle. Cette école a été rebaptisée plus tard la Faculté d'agriculture de l'Université d'Indonésie. La pose de la première pierre de la Faculté d'agriculture est effectuée par le premier président de la République d'Indonésie, Insinyur Soekarno, le 27 avril 1952. Il veut l'agriculture à traiter spécifiquement, parce que l'Indonésie est un pays agricole. La prochaine étape de plusieurs facultés d'université de l'Indonésie ont décidé de former un établissement d'enseignement indépendant. Le 1er septembre 1963, la faculté de l'agriculture et de la faculté de vétérinaire séparées à l'Institut d'agronomie de Bogor, IPB. Après sa sortie de l'Université d'Indonésie, cinq facultés à Bogor ont été formées, à savoir la faculté de l'agriculture, la faculté de foresterie et la faculté de la pêche à Baranang Siang et la faculté de l'élevage et la faculté de médecins vétérinaires au Mont Gede. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
La mise au point jeudi 1er septembre 2016. Le gouvernement indonésien soutient l'industrie cosmétique et le jamu ou l'herbe nationale pour qu'il puisse concurrencier dans la communauté économique ASEAN. Le ministère de l'Industrie s'est engagé à renforcer l'indépendance de l'industrie cosmétique et le jamu national ou l'herbe pour réduire la dépendance des matières premières importées. Le ministre de l'Industrie, Airlangga Hartanto, avait dit que l'Indonésie avait un grand potentiel pour le développement du secteur en raison du nombre élevé d'habitants et la disponibilité des ressources naturelles abondantes. À cette fin, le ministère de l'Industrie souligne la maîtrise de la technologie pour les acteurs de l'industrie cosmétique et le jamu, afin d'être en mesure de traiter des matières premières locales. Cela a été dit le ministre à l'ouverture de l'exposition de l'industrie cosmétique et le jamu ou l'herbe 2016 qui a eu lieu au ministère de l'Industrie à Jakarta mardi. Le gouvernement ouvre des opportunités pour l'expansion du marché et de la coopération économique pour l'industrie des cosmétiques et le jamu national. Ceci est réalisé grâce à la mise en œuvre d'un accord de libre-échange global. Selon Airlangga Hartanto, aujourd'hui, l'Indonésie est entrée dans l'ère de la communauté économique de l'ASEAN, CEA, et en 2018 fera face au partenaire économique régional global, RCEP. Concernant la question, la ministre de coordination pour le développement humain et culturel, Madame Puan Maharani a déclaré que le gouvernement devait continuer à faire des efforts pour améliorer la compétitivité des industries nationales en publiant une politique stratégique visant à renforcer la structure du secteur. Le coaching de l'industrie cosmétique et le jamu ou l'herbe est une coopération intersectorielle qui est intégrée les uns aux autres. Cette industrie continue d'être encouragée à augmenter. En plus de la conformité aux réglementations en termes de santé, il est également nécessaire de la facilitation ou le coaching pour assurer des normes et de la qualité des produits. Selon Puan, elle est activement en coordination avec le ministère de la Santé et l'Agence de surveillance des aliments et des médicaments, BPOM, pour lutter contre les produits cosmétiques et les jamu ou les herbes illégaux. Le directeur général de l'industrie de la chimie du textile du ministère de l'Industrie, Ahmad Sigit Dwi Wahyono, a déclaré que l'exposition de l'industrie cosmétique et jamu 2016 a duré 4 jours du 30 août au 2 septembre 2016 à Plaza Pameran Industrie et participé par 20 sociétés de cosmétiques, 17 sociétés de jamu et une compagnie pharmaceutique. Ahmad Sigit souhaite que cette activité puisse faire des produits cosmétiques et le jamu puisse devenir les maîtres dans leur propre pays. Auditeurs et auditrices, c'était la mise au point pour aujourd'hui.
L'ambassade de France en Indonésie à travers Business France, mardi le 30 août 2016, a fait un séminaire franco-indonésien concernant la sécurité des cyberespaces en Indonésie. Ce séminaire, intitulé Indonesian French Cyber Security Seminar, parlait principalement du développement et de l'importance de la sécurité des cyberespaces du temps présent. L'augmentation du besoin d'utilisation de l'Internet à tous les secteurs publics et privés aujourd'hui devient une problématique qui provoque les cyberattaques qui pourraient déranger la sécurité du pays. Donc, la France sensibilise tout le monde, le gouvernement, les secteurs privés et même les individuels pour prendre la conscience sur l'importance de la cybersécurité. Le chargé de développement de technologie et de services du Business French, Gaya Guiru Mejenoun, a dit que le développement de cybersécurité était une priorité aussi importante que la construction d'infrastructures en Indonésie.
Quelles sont les priorités de l'Indonésie? Il y a des priorités en termes d'infrastructure. Les aéroports, les trains, le portuaire, le maritime, ça fait partie des priorités. Mais l'Indonésie, c'est aussi un pays qui a compris que le online, que les startups, que le e-commerce, que le mobile banking sont aussi des secteurs sur lesquels il faut miser. Donc oui, la cybersécurité, c'est une problématique qui fait partie des priorités car aujourd'hui, sans sécurité des données, sans sécurité de l'information, on ne peut rien faire. Si on ne sait pas sécuriser son information, si on ne sait pas sécuriser ses données, ça peut poser des problèmes.
Gaïa a également dit que la cybersécurité en Indonésie devait aussi être appliquée sur les domaines policiers et militaires, car aujourd'hui, l'acte de criminel et même le terrorisme peut être fait et commencé dans le cyberespace. Donc, selon lui, il faut prendre la conscience sur la nécessité absolue de cybersécurité et le gouvernement doit socialiser l'importance de celui-là aux citoyens même depuis l'enfance. Les gouvernements de l'Indonésie et la Malaisie ont convenu de coopérer dans le domaine économique par l'intermédiaire de la Fondation du Conseil des pays producteurs de l'huile de palme, ou CPOCP, à la réunion bilatérale qui a eu lieu en Malaisie mardi le 30 août. Le ministre de coordination des affaires maritimes, Luhut Binsar Panjaitan, a dit à RRI mercredi que certains points liés à CPOPC ont été convenus.
Kita sudah merampungkan mengenai pengurusnya, kemudian kita ngatur strategi.
Nous avons terminé sur la gestion, puis nous organisons notre stratégie et faire le financement de 5 millions de chaque personne pour le bureau opérationnel. En décembre, il y aura le forum d'affaires à Jakarta et toutes les questions qui ont été abordées seront achevées à Jakarta à partir de maintenant jusqu'en décembre. Pendant ce temps, le ministre malaisien de la Compagnie de l'agriculture et des produits de base, Datuk Seri Masue Keong, a dit à la presse que dans l'avenir avec l'Indonésie, son côté promouvera l'existence de la fondation du Conseil des pays producteurs de l'huile de palme aux autres pays et de supprimer les stigmates négatifs sur l'utilisation de l'huile de palme. Son côté espère également que les autres pays producteurs de l'huile de palme, comme la Thaïlande, le Nigeria, la Colombie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, se rejoignent et soutiennent l'existence de ce conseil. L'exemption de visa par l'Indonésie peut augmenter les revenus dans le secteur du tourisme. Manado est la nouvelle destination touristique en Indonésie. Le ministre du Tourisme de l'Indonésie, Arif Yahya, expliquait que l'Indonésie était en train de promouvoir Manado comme la nouvelle destination et a produit 1,3 trillion rupiah de l'arrivée de 16 000 touristes en provenance de Chine pendant les deux derniers mois.
Manado itu dalam dua bulan ini, Juni dan Juli, sudah terbang 16 ribu.
Pendant le mois de juin et juillet, 16 000 touristes chinois ont visité Manado. Si nous pouvons le maintenir, en moyenne, 8 000 jusqu'à 100 000 touristes de la Chine visiteront Manado, soit environ 100 millions de dollars américains. Selon le ministre Arif Yahya, le ministère indonésien du tourisme continue à vendre le tourisme de Bali pour attirer les touristes étrangers, mais il faut être combiné avec Manado. Ceci est prouvé par l'augmentation du nombre d'arrivées de touristes étrangers à Manado. Le président Joko Widodo a reçu la visite de la reine néerlandaise, reine Maxima Zoregita Tiruti, au palais présidentiel ce jeudi. La reine Maxima vient comme conseillère spéciale du secrétaire général des Nations Unies sur le financement inclusif pour le développement. À cette réunion, ils ont discuté des programmes économiques inclusifs qui sont en train d'effectuer activement par le gouvernement indonésien. Auparavant, la reine Maxima a rencontré également la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, à Gedung Pancasila du ministère des Affaires étrangères à Jakarta, mardi le 30 août. Dans sa rencontre avec Madame Retno Marsudi, la reine Maxima a salué les progrès du programme de financement inclusif en Indonésie. La reine néerlandaise était en Indonésie pendant 3 jours. Le gouvernement indonésien encourage le renforcement des réseaux de coopération de tourisme culturel entre les pays membres du dialogue de coopération asiatique de TIA, comme indiqué dans un communiqué de presse de l'ambassade d'Indonésie à Téhéran mercredi. Cela a été déclaré par l'ambassadeur d'Indonésie en Iran, Octavina Alemoudine, à la première réunion des ministres du tourisme des États membres du dialogue de coopération asiatique de TIA, qui a lieu du 29 au 30 août 2016 à Tabriz, en Iran. La réunion a été assistée par le secrétaire général de DCA, Bundit Lim Schoon, de la Thaïlande, certains ministres du tourisme, sous-ministres, les ambassadeurs à partir de 15 pays membres du DCA. Dans la discussion de l'ordre du jour de chaque pays membre, la délégation indonésienne dirigée par Ali Moudin a souligné l'importance d'établir des réseaux de coopération du tourisme culturel des pays membres du DCA, parce que de nombreux sites culturels interdépendants dans les pays asiatiques. Il soutient la normalisation de la qualité et le service donné par les hommes d'affaires touristiques qui peut être fait via la coopération pour le développement des capacités et des investissements étrangers, tout en respectant la sagesse locale et l'existence des communautés locales. L'Indonésie souligne également la nécessité de prêter attention aux aspects de sécurité et de l'environnement sain dans les destinations touristiques, a déclaré Ali Moudin. Les meubles de l'Indonésie sont inclus dans les produits qui sont célèbres et populaires en Ouzbékistan parce qu'ils ont la qualité et la conception intéressantes. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur de la République d'Ouzbékistan en Indonésie, Savkat Jamolov, dans un entretien avec l'agence de nouvelles Antara à l'ambassade de la République d'Ouzbékistan à Jakarta mardi, dans le cadre du 25e anniversaire de l'indépendance de la République d'Ouzbékistan le 1er septembre 2016. L'ambassadeur Jamolov, accompagné du troisième secrétaire Oybek Eskobilov, a affirmé que beaucoup de meubles fabriqués à partir de Jepara, Central Java, étaient commercialisés à l'Ouzbékistan, mais les vendeurs utilisent d'autres pays comme producteurs de meubles. La valeur des échanges commerciaux entre les deux pays en 2015 a enregistré 12,8 millions de dollars américains. Il espère que le commerce et l'investissement des deux pays augmenteraient à l'avenir. Et il a invité les hommes d'affaires indonésiens à faire des affaires dans divers secteurs dans le pays, avec une population de 32 millions d'habitants, le plus élevé parmi les pays d'Asie centrale. Serge Ritter, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs et auditrices, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix de l'Indonésie. Pour la boucle suivante, voici le magazine culturel. Nous poursuivons avec l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir chers auditeurs, chers amis, merci d'écouter La Voix de l'Indonésie. Voici la rubrique La Magazine Culturelle. Cette fois, je vais présenter le lac Tambing. Le parc national Lorelindu, TNLL, dans la province de Sulawesi Central, développe actuellement deux grands sites touristiques tels que la reproduction et l'élevage de l'oiseau maléo et le lac Tambing. Le site touristique de la reproduction et l'élevage de l'oiseau maléo, l'animal endémique à l'île de Sulawesi, est situé dans le village de Saluki, la régence de Poso. Le gouvernement local continue à développer diverses installations et infrastructures à deux endroits touristiques qui commencent à être visités par des touristes étrangers comme par exemple l'électricité, l'eau potable, des pavillons pour rester les touristes nationaux et étrangers. Actuellement, beaucoup de touristes étrangers visitent le lieu de la reproduction et de l'élevage de l'oiseau maléo et le lac de Tambing en raison du caractère unique des deux sites touristiques. Comme par exemple sur le lac Tambing, il est le paradis pour les oiseaux. Il y a environ 260 espèces d'oiseaux et 30% d'entre eux sont les endémiques du lac Tambing. Cela signifie que 30% des espèces d'oiseaux autour du lac Tambing existent seulement dans cette région. Une autre particularité est l'existence des arbres Ieda, un arbre endémique qui existe seulement dans la province de Sulawesi Central. À partir de Palu, la capitale de la province, le Sulawesi Central, le lac Tambing peut être accédé environ 3 heures en traversant le Transnapu Palu. Au stationnement du véhicule du lac Tambing, vous devez rapporter au gardien du parc national de Lorelindu. Après avoir marché des dizaines de mètres dans le parc forestier, vous pouvez regarder un beau lac qui est enveloppé dans le brouillard. Vous serez accueillis les foires et les chants des oiseaux. Vous pouvez profiter de la beauté naturelle en entourant le lac avec la superficie environ 1 hectare. Pour ceux d'entre vous qui aiment la pêche, vous pouvez aussi pêcher au bord du lac Tambing. Il serait amusant si vous grilliez les poissons autour du lac. Si vous voulez vous rendre au lac Tambing, il faut visiter dans la matinée. Il est temps que les oiseaux sont sortis de leur nid. Le lac Tambing est situé à une altitude de 1700 mètres au-dessus du niveau de la mer, donc vous devez porter une veste épaisse parce que le temps est très froid. N'oubliez pas d'apporter suffisamment de nourriture. Si vous voulez passer la nuit, apportez un sac de couchage et les tentes pliantes pour la literie car ici il n'y a pas de logement. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie. Merci à tous et à demain.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie. Sur les fréquences ondes courtes, 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id. Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Chers auditeurs et auditrices de la Voix d'Indonésie, bonsoir. Voici l'Indonésie en couleurs et pour le titre, le marathon de Bromo. Donc, restez avec nous sur www.voi.co.id. Chers amis, le parc national de Bromo-Tengger-Semeru est un endroit naturel national qui se trouve au district Pasuruan, Java-Est. Le parc, ayant une superficie de 58 000 hectares, est riche de ses flores et faunes, ainsi sa beauté naturelle. Ce n'est pas étonnant que le parc national de Bromo-Tengger-Semeru devient l'un des endroits touristiques le plus visités à Java-Est et il devient aussi l'une des 10 destinations prioritaires du ministère de Tourisme à promouvoir. Un effort pour le promouvoir est d'organiser le marathon de Bromo 2016. Cet événement de randonnée aura lieu le 4 septembre 2016. Chers auditeurs, il y a trois catégories de marathon dans cet événement. Ce sont 10 km, demi-marathon et marathon complet. Dans le marathon complet, les participants commenceront à une altitude de 1758 mètres au-dessus du niveau de la mer jusqu'à 2469 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le marathon débutera du village Tosahi-Tenger avant d'entourer les montagnes de Bromo en passant de certains villages. Les participants verront la sérénité et le sacré du village en traversant le lieu religieux à ce village avant de rencontrer le terrain difficile du village, Banyumenang. L'aventure continuera par en forêt au village Ngadiwono jusqu'au village Tosari où le marathon complet prendra fin. Au demi-marathon, le début et la fin seront au village Tosari. La route combine des conditions de terrain variées du parc national de Bromo-Tengger-Semeru, y compris certaines vallées à une altitude de 1900 mètres jusqu'à 2400 mètres au-dessous du niveau de la mer. Pendant ce temps, pour le marathon de 10 km, des terrains ont seulement l'altitude de 1700 à 1975 mètres au-dessous du niveau de la mer et ils commenceront et finiront encore au village Tosari. À ce marathon, les participants vont passer la route montée avant d'entrer en petit village de Podokoyo, est aussi un marché traditionnel de Tengger. Chers auditeurs, le marathon de Bromo ne vous présentera pas seulement le beau paysage et le terrain difficile, mais il vous présentera aussi la vie quotidienne des habitants de Bromo et la culture unique du village Tengger. Le marathon de Bromo est organisé grâce aux contributions des communautés de coureurs qui sont en vue de faire une activité sportive qui peut développer l'éducation, la santé et l'économie des habitants locaux. Cette année, ce sera le 4e marathon de Bromo. Chers auditeurs, voilà l'édition d'Indonésie en couleur aujourd'hui, dont le sujet est le marathon de Bromo 2016. Nous nous rencontrons demain avec des sujets aussi intéressants. À bientôt!
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers auditeurs et auditrices dans le monde entier. Rencontrons-nous dans le magazine musical, un programme qui présente les musiques indonésiennes, soit traditionnelles et modernes. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.voi.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons un chanteur indonésien qui était populaire aux années 80, Jamal Mirdad. Beaucoup de chanteurs pop indonésiens qui ont atteint le pic de popularité a changé la profession, comme Jamal Mirdad. Il était populaire avec des chansons composées par Arianto aux années 80 et maintenant un membre du Parlement du Parti démocrate. Sa carrière comme chanteur a été laissée à cause de ses occupés dans le monde politique. Bon, Serge Dutard, pour ouvrir notre rencontre, voici Jamal Mirdad avec sa chanson intitulée « Cœur aussi doux que la neige ». Bonne écoute.
Bila kau tiba, jangan hanya berhenti.
Chers auditeurs, la chanson que vous venez d'écouter a popularisé Jamal Mirdad dans l'industrie musicale indonésienne. Le voyage de sa carrière comme chanteur est différent que d'autres chanteurs indonésiens. Grâce à l'esprit et l'intérêt d'Our, soutenu par la capacité de son vocal, a réussi à pénétrer l'industrie musicale dans le pays. Un musicien et compositeur célèbre, Arianto, qui avait connu la capacité de vocal de Jamal Mirdad, a composé les chansons qui correspondent à la couleur et le caractère de son vocal. La chance prend parti pour lui. Ces chansons sont très connues au marché et a placé Jamal Mirdad en parallèle avec d'autres chanteurs dans le pays. Après que son époque d'or ait diminué, Jamal Mirdad était un membre du Parlement. Bon, serviteur, écoutons maintenant la chanson suivante de Jamal Mirdad intitulée « Cœur fond devient la poussière ». Bonne écoute.
Titik titik noda te tertinggal di dalam dada. Guratan hatiku masih ada, tergores ingatan, pahit ku rasakan. Hari ini hati masih luka. Telah aku coba melupakan segalanya, namun titik terang tiada datang. Langit makin kelam, luka makin dalam, hati ini hancur jadi debu.
Serviteur, la chanson intitulée Cœur fond devient la poussière est l'une des chansons qui a catapulté sa réputation et a souvent joué sur les radios dans le pays, mais cela n'a pas duré longtemps. La chanson de Jamal Mirdad raconte surtout les sentiments d'une personne qui est en deuil et un sentiment d'amour profond. Bon, chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici la chanson intitulée « Le cœur d'un nouvel ami ». Bonne écoute et au revoir.
Bukan aku membujimu, engkau. engkaulah satu antara seribu. Bukan aku merayumu, engkaulah satu pilihan jiwaku. Darah manis kawan baru aku ucapkan setulus hatiku. Percayalah kepadaku, ku bawa mimpi karena rasa rindu. Aku menanti sampai kini, dari hari ke hari jawaban pasti kau nyatakan. Baru engkau satu penghiburku, ku panjangkan harapan cinta padamu. Terimalah hati ini yang kini sangat mengharapmu. Oh darah manis berikanlah cintamu. Wajah lembut nan menawan menyiram dini luka di hatiku. Dua tanganku memohon, sirami pula bunga dalam dada. Ku menanti sampai kini, dari hari ke hari jawaban pasti. Ku percaya engkau satu penghiburku, panjangkan harapan cinta padamu. Terimalah hati ini yang kini sangat mengharapku. Aku menanti sampai kini, dari
chers auditrices et chers auditeurs, c'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id. sbs.com.au/cyprus.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat 4 et 5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.